Habemus Papam.
On est en 1963, en plein concile, lorsque Jean XXIII décède. Giovanni Battista Montini, largement favori, est alors élu pape. Henri Tinck, journaliste au Monde et spécialiste du Vatican, nous parle tout d'abord de l'homme qui deviendra Paul VI.
Formé à la diplomatie, homme d'une santé un peu fragile, mais à 40 ans, il devient substitut de la secrétaire d'État, ce qui voulait dire que Giovanni Battista Montini était un homme extrêmement brillant et qu'il avait été tout de suite repéré par les responsables de l'Église à l'époque. Il est élu pape parce qu'au début du concile, avec Jean XXIII, il a été l'un des partisans de l'élan qui allait être donné à l'Église, ce nouvel élan. Il était complètement partie prenante. Il ne faisait pas partie de ces gens qui freinaient, de ces gens qui avaient peur. Il a compris très rapidement, parce qu'il était extrêmement intelligent, il a compris les enjeux et il a compris qu'il fallait aller au bout de cet effort.
De fait, le Concile Vatican II a été convoqué en 59 et officiellement lancé en 62. Il faut en faire avancer les travaux, comme l'explique Philippe Levillain, historien et auteur d'un dictionnaire historique de la papauté.
Paul VI va accomplir Vatican II qui apparaissait comme un concile qui ne finirait jamais. Il y avait une certaine impatience de l'opinion, une lassitude des pères conciliaires. Paul VI a clos Vatican II qui, en fait, finissait par engendrer un grand trouble dans l'Église, tant de la part des pères conciliaires, qui sont les docteurs de l'Église, que auprès de l'opinion publique, qui attendait chaque jour de plus en plus. Il va être l'homme qui va structurer le programme fou et flou de Vatican II. Il cherche une voie d'expression du visage de l'Église dans le monde contemporain.
Mais cette expression est difficile à trouver. Certains reprochent à Paul VI son modernisme, d'autres lui reprochent d'avoir bridé les espérances du Concile.
Il a été très libéral vis-à-vis du Concile, notamment dans la conduite des assemblées. En même temps, il y a une ligne de sauvegarde. Ce n'est pas du conservatisme, c'est une ligne de sauvegarde qui est la ligne de sauvegarde de l'identité de l'Église.
Mais cette ligne de sauvegarde n'a pas été comprise par tous. Nous écoutons Henri Tinck.
Paul VI reste dans l'histoire pour la grande opinion qui ne va pas plus loin que une simple impression. Il reste le pape d'une sorte de retour à des réflexes conservateurs après les grandes espérances de Vatican II. C'est évidemment pas la vérité.
Paul VI va encore ternir son image en 68, l'année même où l'Europe s'agite partout. En effet, l'encyclique Humanae Vitae sur le mariage et la régulation des naissances est promulguée en juillet 68.
Humanae Vitae, qui a cette année 40 ans, est un appel à la paternité responsable. Mais, et un ode à l'amour magnifique, mais qui est aussi, et l'opinion mondiale retiendra ça, une espèce de condamnation des moyens de contraception non naturels, c'est-à-dire pilules, stérilés, etc. Et c'est donc une trace qui va rester dans l'histoire de ce pontificat de Paul VI comme marqueur d'une évolution d'Église hostile de plus en plus aux libérations du monde moderne, libération sexuelle, libération de la femme. Et les conséquences de cette encyclique sont redoutables, si on s'en tient à une lecture peut-être trop étroite de cette encyclique, mais sans en voir l'aspect prophétique qui consistait à dire que l'amour humain ne doit pas être déterminé par des techniques, mais doit être déterminé par la nature, et qui est, c'est-à-dire la puissance divine.
L'image de Paul VI est alors terriblement affectée, comme nous l'explique Philippe Levillain.
Paul VI va devenir un pape extrêmement impopulaire. Il est impopulaire parce qu'il est considéré comme ayant bridé la liberté des mœurs dans les sociétés chrétiennes. Donc le fin de son pontificat, qui même, il y aurait 10 ans encore, 68-68, est un véritable calvaire. Ce grand pape est un pape qui est oublié. Et Paul VI, de, disons, 70-78, attend, et il va mourir à 80 ans, qui est l'âge auquel d'ailleurs il avait assigné aux cardinaux la nécessité de renoncer à la possibilité de participer au conclave.
L'homme sera très affecté, Henri Tinck.
Paul VI est un homme très vulnérable et il souffrira beaucoup de cette pression, de cette contestation. Sa vie a malheureusement s'est terminée sous les nuages, quoi. C'est-à-dire que les polémiques entraînées par l'affaire des traditionalistes, les polémiques entraînées par l'encyclique Humanae Vitae, les propres souffrances physiques de Paul VI qui souffrait d'une arthrose, a fait toutes ces dernières années de Paul VI ont été un petit peu déclinantes et un petit peu tristes au fond.
Pourtant, Paul VI fut un grand pape voyageur et le premier à tendre la main aux frères séparés.
Paul VI a fait une dizaine de voyages dans le monde. Le premier pape voyageur, ça a été lui, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, en Europe, et j'ai en tête ce souvenir fabuleux de ce voyage à Jérusalem de janvier 1964 où il prend dans ses bras le patriarche Athénagoras de Constantinople, c'est-à-dire le numéro 1 de l'orthodoxie mondiale, c'est-à-dire les frères séparés de l'orthodoxie, séparés depuis le schisme du XIe siècle, et avec Athénagoras, par leur baiser de paix, par la levée des excommunications, des anathèmes qui a suivi entre Rome et Constantinople, il efface d'une certaine manière presque 10 siècles d'histoire. Il a fait la même chose avec l'archevêque de Canterbury, effaçant 4 siècles de schisme entre les anglicans et puis les catholiques.
30 ans tout juste après la mort de Paul VI, que doit-on alors retenir de ce pape ?
C'est l'homme qui voyage, c'est l'homme qui applique Vatican II, c'est l'homme qui définit les nouvelles conditions de la mission, c'est l'homme qui compte sur l'intelligence humaine pour aller toujours plus loin dans la conquête des libertés et des droits de l'homme, c'est l'homme qui écrit Populorum Progressio, qui est une invitation à toutes les organisations internationales, à tous les chrétiens, à aller plus loin dans ce qu'on dirait aujourd'hui l'aide aux pays en voie de développement. Alors, je crois que ce très grand pape ne méritait pas d'une certaine façon une telle fin.
C'était Henri Tinck, journaliste au Monde et spécialiste du Vatican, et Philippe Le Villain, historien et auteur d'un dictionnaire historique de la papauté.